Alors que le thème de la violence effraie régulièrement les chroniques d'actualité de nos entreprises médiatiques, toujours en quête de sensationnel, d'audimat et de clients, il est un sujet de violence sur lequel les grands prêtres cathodiques des JT restent assez discrets. Celui des violences conjugales, évoquées presque aussi rarement que les violences policières. Sauf quand elles touchent tragiquement des vedettes de la chanson ou du cinéma. Nos faiseurs d'opinion publique leur préfèrent très nettement les violences des collégiens ou des bandes de sauvageons de ces banlieues peuplées de classes dangereuses de nos mégalopoles. Et pourtant, les statistiques dont ils sont si friands sont éloquentes, inquiétantes. Une enquête nationale officielle publiée en octobre 2001 établissait qu'en France, la violence conjugale tue une femme tous les 6 jours. Que 20% des femmes sont victimes de violences conjugales au cours de leur vie, que 10% en ont subi au cours de l'année écoulée. Les rédacteurs de cette même étude nationale y expliquaient que c'était dans la vie de couple où les femmes adultes subissent le plus de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Le sujet est évidemment plus délicat que celui des tournantes. La sacro-sainte famille prend du plomb dans l'aile. Tous les couples peuvent être concernés. Pas que ce concubin, ça fait du monde, une sacrée part de marché. En effet, le rapport souligne que tous les groupes sociaux sont touchés. Les classes dites défavorisées, ou plus softement appelées en difficulté, les pauvres quoi, les classes moyennes, les classes libérales, les riches, et même la crème de Neuilly, du faubourg Saint-Honoré et des paradis fiscaux. Voilà de quoi rendre évidemment prudents, perplexes, les battleurs publicistes de l'infospectacle. Autre enseignement de cette étude nationale de 2001, les femmes de 20 à 24 ans seraient 2 fois plus exposées que leurs aînés. Les personnes qui, enfants, ont supporté des sévices sont 4 fois plus que les autres victimes d'agressions physiques ou sexuelles dans leur couple. L'infériorité du diplôme scolaire universitaire du conjoint semble aussi accentuer l'exposition des femmes au risque de violence. On peut aussi penser que les retombées sociétales, psychologiques de la lutte féministe engagée depuis le début des années 70 a bousculé bien des repères dans la vie quotidienne sociale et de couple, dans les relations hommes-femmes, dans un sens plus égalitaire, moins patriarcal. Une évolution non achevée mais importante qui doit déstabiliser beaucoup de petits et grands machos fragilisés qui se réaffirment par le rapport de force. Certes, il y a aussi des hommes battus par leurs épouses, mais ce sont des cas extrêmement minoritaires, des exceptions confirmant la règle de l'homme frappant la femme. En Espagne, où le phénomène des violences conjugales était selon une étude européenne des plus graves, l'occasion fut prise par un nouveau gouvernement socialiste de se distinguer positivement en légiférant sur un ensemble de dispositions en faveur des victimes. En France, il y a peu, un drame entre 2 artistes connus a eu le mérite de remettre sur la place publique ce sujet sensible, qui vient également de faire l'objet d'un texte de loi relatif aux dispositions sur le divorce, en partie inspiré du modèle espagnol, proposé par une majorité de droite et voté consensuellement par l'ensemble de la classe politique. Autre initiative intéressante, la mise en place d'expériences pilotes au niveau régional comme national pour un meilleur accompagnement des victimes. Un de ces dispositifs pilotes concerne les Alpes de Haute-Provence. Dans la série Zinzinement Vôtre, SOS Violence Conjugale 04, avec Françoise, Catherine Dimec, Martine Trouche, Marie Domarque Orgue de Bas, février 2005. Au cours de cette émission, nous allons entendre 2 entretiens un réalisé à Digne à la mi-décembre avec Martine Trouche du Centre Information sur les droits de la femme, avec une conseillère conjugale et familiale, thérapeute de couple et de famille à Gap, Marie Domarque Orgue-Debat, animatrice du groupe de parole sur Digne. Le second entretien enregistré à Fort-Calquier début janvier avec Françoise, une des responsables du réseau SOS Violence Conjugale 04, et Catherine Dimec, thérapeute, intervenante dans ce dispositif. Nous allons d'abord écouter le groupe de Fort-Calquier, puis nous irons à Digne pour revenir en fin d'émission à Fort-Calquier. Pour commencer, écoutons donc Françoise et Catherine Dimec nous présenter SOS Violence Conjugale 04 et tirer un petit bilan provisoire des quelques mois de pratique du dispositif. Françoise, vous êtes donc une des responsables du dispositif départemental SOS Violence Conjugale 04. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce dispositif et puis nous expliquer un petit peu quelle a été sa mise en place, comment ça s'est passé et pourquoi le département 04 d'ailleurs est un département pilote en la matière ?
Alors, le département 04 est un département pilote en la matière grâce au dynamisme de sa commission départementale de lutte contre les violences conjugales. Hein, il y a une commission départementale dans tous les départements, enfin de lutte contre les violences faites aux femmes plus exactement. Hein, et la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, qui était Valérie Masson il y a 2 ans, anime cette commission et a créé un dynamisme tel que des travaux des commissions et des sous-commissions sont issus des vœux des différents travailleurs sociaux, policiers, gendarmes, enfin toutes les professionnels qui sont impliqués et qui rencontrent des victimes ou des agresseurs de violences conjugales étaient présents. Nous-mêmes, association Parole, dans le même temps, nous avons proposé un projet qui s'appelle SOS Violences Conjugales et qui répondait point par point aux attentes et aux besoins qui ont émergé dans ces sous-commissions. Donc voilà, c'est le fruit d'un travail en concertation. Et pourquoi SOS Violence Conjugale est pilote en France ? C'est parce qu'on propose 2 types d'accueil qui n'existent nulle part ailleurs, et notamment une permanence 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Hein, c'est-à-dire que nulle part en France, à part le numéro national Info Femmes, mais qui s'arrête à 19h ou à 20h, je ne me rappelle plus, il y a cet accueil spécifique 24h sur 24. Et l'autre aspect, c'est que nous sommes mobiles sur tous les départements. C'est-à-dire que nous allons rencontrer les femmes sur leur lieu de résidence, ce qui a plusieurs avantages que je peux vous décrire si vous le souhaitez.
Oui, justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'organigramme ou ce que propose, entre guillemets, SOS Violence Conjugale, question service, question accompagnement, quels sont vos moyens d'action, votre méthode ?
Alors, je vais partir d'abord des besoins des victimes et de la spécificité des problématiques des violences conjugales, hein, parce que le problème majeur, c'est le silence des victimes. C'est le fait que pendant des années, pour certaines personnes pendant des décennies, parfois pendant toute une vie, la victime de violences conjugales cache le vécu terrible qu'elle est en train de vivre pour diverses raisons sur lesquelles on pourra revenir, ou que Catherine, notre psychothérapeute, pourra développer. Et donc, que faire pour entrer en contact avec ces femmes ? C'est la question qu'on s'est posée à l'origine de SOS Violences Conjugales. Et on a pensé qu'il y avait un moment propice, c'était de profiter de la situation de crise. C'est-à-dire qu'il y a des moments paroxystiques où, parce que des voisins appellent parce qu'ils entendent des cris, parce que le coup a été trop fort et qu'il faut appeler le médecin, parce que il y a une visite des gendarmes, voilà, la situation de crise, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il fallait être présent. Donc, la commission départementale, donc qui est un dispositif géré par la préfecture 04, a décidé, parallèlement à l'émergence de SOS Violence Conjugale, que les policiers, les gendarmes, les médecins des services des urgences, lors de la situation de crise, mettraient la victime en contact téléphonique avec nous-mêmes, d'où cette permanence 24 heures sur 24 pour les services d'urgence. Parce que lorsqu'on a la femme à ce moment-là, lorsque notre accueillante de nuit répond, son objectif est de s'assurer que pour la soirée, les premiers besoins de la femme sont assurés, qu'il y a un hébergement, que le policier connaît bien, qu'il existe une convention de taxi pour amener la victime du commissariat au foyer d'hébergement. Donc s'assurer que tout le monde est bien informé des ressources qui existent sur le moment et prendre rendez-vous avec elle le plus tôt possible, c'est-à-dire si possible le lendemain, le surlendemain, pour profiter de cette ouverture, parce qu'après, malheureusement, il est trop tard. Souvent, les femmes retirent leur plainte et ne veulent plus rencontrer personne. Voilà. Donc, d'où cette permanence de nuit pour les services d'urgence. Ensuite, pourquoi nous déplaçons sur le lieu de résidence de la victime? Eh bien, pour faciliter le contact. Parce que si nous avions une permanence d'une demi-journée dans les principales villes du département, encore faut-il pour que les femmes viennent, qu'elles soient disponibles pendant ce laps de temps. Souvent, ce serait un lieu qui est identifié dans des petites villes, dans des petites communes, donc elles auraient honte d'aller dans un lieu qui soit étiqueté. Tandis que là, on facilite tout. Je, puisque c'est moi qui suis l'accueillante de jour, m'adapte à la disponibilité horaire de la victime qui doit souvent, presque toujours, se cacher de ce contact avec nous. Donc, on va rencontrer la victime dans un café, dans le café d'un village voisin, le plus souvent, puisque dans son village, elle risque de se faire reconnaître. Ça peut être dans un CMS, ça peut être dans un parc, ça peut être dans une cafétéria, là où c'est facile pour la victime.
Sinon, à propos de ce dispositif-là, bon, ça fait quelques mois que ça fonctionne déjà sur le 04. Mmh. Est-ce que vous voyez des choses qui seraient bon d'améliorer ou qu'est-ce que vous voyez qui fonctionne bien, François?
Alors, le fait que ça soit mobile, un dispositif mobile, c'est vraiment adapté. Et les femmes sont très sensibles à cette démarche vers elles et se sentent soutenues. Et ça leur fait du bien. Hein. Le fait de profiter du moment de la crise pour se rencontrer, c'est également adapté. Bon, maintenant, les orientations ne se font pas encore de manière systématique. Hein, pour que un tel dispositif entre dans les habitudes, dans les manières de fonctionner de chaque centaine de gendarmes, de dizaines de policiers, des médecins. Donc, on est loin encore d'une orientation systématique. Et c'est dommage, bien sûr, puisque ça fait des victimes qui n'ont pas contact, qui n'ont pas d'informations. Hein. Mais ceci devrait, pour des mois à venir, s'améliorer, puisque notre association va sensibiliser l'ensemble des gendarmes et des policiers à la problématique des victimes de violences conjugales. Donc on pense que ça va s'améliorer.
Et sinon, de l'autre côté, le bilan, disons, humain, le bilan des femmes que vous avez rencontrées durant ces mois, ça fait à peu près 6-8 mois ou 8.
Voilà, depuis...
C'est quoi à peu près le bilan que vous tirez?
Eh bien, la fréquentation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons rencontré 160 femmes, ce qui est quand même un chiffre considérable pour un tel département, et sachant qu'il y a des populations que nous n'avons pas touchées, comme par exemple les femmes étrangères, les femmes de culture musulmane, les femmes en grande précarité. C'est un public que nous avons peu touché. Nous avons plutôt touché des femmes diplômées, ayant un métier, étant intégrées dans la société, peut-être parce qu'elles développent plus facilement les moyens de se donner les moyens de se faire aider. Donc, nous avons un travail à faire pour arriver à toucher les personnes pour qui c'est le plus difficile de contacter une association telle que la nôtre.
Un des aspects importants de l'association, c'est justement pouvoir soutenir aussi la victime une fois qu'elle a décidé de s'en sortir et de rompre avec son conjoint, avec son mari, parce que là il y a effectivement une sorte d'enfer administratif et de toutes sortes qui lui tombe sur la tête dans un des pires moments, quoi.
Oui, oui. François. C'est extrêmement compliqué, c'est-à-dire que nous avons à la soutenir dans les différentes étapes. Je dois dire que le gros de notre travail là, c'est de soutenir la femme dans sa prise de décision de se séparer et à travailler sur toutes les peurs, sur le sentiment de honte, de la culpabilité qui empêche la femme de prendre cette décision. Ça, je dirais que pour moi, accueillante de jour, c'est 80% de mon travail parce qu'il y en a très peu qui passent à l'acte et qui prennent la décision. Hein. Alors pour celles qui prennent la décision, effectivement, après, il y a des démarches qui, pour certaines, sont vraiment très très lourdes à porter, hein. Faire un dossier d'aide juridictionnelle, recueillir des infos, parfois souvent, c'est trouver un hébergement, réorganiser sa vie seule avec et réorganiser la vie de ses enfants, effectivement, changer le compte, arrêter les abonnements, les assurances communes, inscrire l'enfant dans une autre école. Il faut une énergie énorme et beaucoup de courage, et on est aussi là dans cette étape-là.
Et ça, vous accompagnez donc cette suite.
On accompagne cette suite en cas de besoin. On ne se substitue pas au travail des assistantes sociales. Hein. Mais lorsque la victime, en plus du soutien des assistantes sociales, a besoin d'un coup de pouce pour écrire une lettre, c'est souvent pour rédiger des courriers ou pour répondre à des questions, à des inquiétudes, oui, on est là.
Catherine Dine.
Je crois aussi que la spécificité, c'est justement cette vision globale et cet accompagnement dans un certain temps à moyen terme, disons, qui permet d'encourager, c'est-à-dire de garder courage, parce qu'effectivement, le soutien est continu, hein, non pas en pointillé.
Effectivement, je voudrais parler de ce qu'on appelle la rupture évolutive. C'est que les statistiques données par les CIDF nationaux disent qu'une femme fait 5 tentatives de départ avant la définitive. Donc, c'est aussi une des difficultés des intervenants qui travaillent auprès des femmes victimes de violences conjugales, qui est de ne pas se décourager, hein, lorsqu'on a investi du temps, de l'argent, de l'énergie à ce qu'une personne trouve son indépendance et puis un mois après on apprend qu'elle est retournée et que la situation est la même.
Expliquer ça aussi par exemple aux forces de police ou de gendarmerie qui reçoivent quelquefois les plaintes de la même femme 3 ou 4 fois et qui finit par ne plus la prendre en considération.
Voilà, ça va être l'objet de notre formation aussi, de notre sensibilisation, c'est de leur expliquer ce processus pour que justement ils ne se découragent pas, parce que c'est vrai que certains parfois nous le disent, on n'a plus envie d'y aller, ça sert à rien.
Alors qu'en fait, même quelqu'un qui retire sa plainte et qui retourne, une femme qui retourne chez elle, malgré les apparences, ça a quand même servi à quelque chose. Il s'est quand même passé quelque chose et les choses ne sont plus tout à fait comme elles étaient avant. Donc c'est toujours une évolution, même si elle est lente.
Pour compléter ce rapide bilan des 4-5 premiers mois de fonctionnement de SOS Violence Conjugale 04, quelques chiffres. 99 victimes orientées, 96 femmes, 3 hommes, 174 entretiens téléphoniques, 89 rencontres d'au moins 2 heures avec des victimes. Toujours sur ces 99 situations recensées, 32% des femmes avaient déjà porté plainte, 26,7% avaient déposé une main courante. Presque 25% des situations de violence continuent après que le couple soit séparé. 50% des agresseurs ont déjà commis des actes de violence, soit sur une précédente compagne, soit sur la famille, soit au travail. Si 31% des agresseurs sont sous dépendance de l'alcool ou autre drogue, dans 69% des cas, les agresseurs sont en pleine possession de leurs moyens au moment des violences. Des violences qui sont à 100% verbales, 85,7% physiques, 30% sexuelles, et dont le rythme varie, 37,5% tous les jours, 31%. 25% plusieurs fois par semaine. Les motifs de ces violences sont majoritairement à 65%, jalousie, pression, harcèlement, contrôle, à 46% disputes domestiques, 22% séparation, 30% alcool, toxicomanie. 100% des enfants sont les témoins de ces violences. Il ressort également de ces 99 cas, recoupant toujours les données de l'enquête nationale de 2001, qu'un écart d'âge de 10 ans ou plus entre conjoints entraîne le doublement des situations de violence, qu'un écart de niveau d'études en faveur de la femme favorisera aussi les pulsions machistes et que l'indépendance matérielle n'enlève pas la dépendance affective. Les raisons du silence sont naturellement le sentiment de culpabilité entretenu par ce cycle des violences, les peurs, l'amour, la dépendance affective, le respect des valeurs familiales, la situation culturelle, la honte, l'isolement, situation médicale et psychologique et la tolérance sociale. Quant aux victimes, elles sont assistantes de services sociaux, infirmières, enseignantes, institutrices, comptables, secrétaires, auxiliaires de vie, caissières, employées de maison et beaucoup, 11%, sans statut propre. Quant aux agresseurs, eh bien, on y trouve aussi bien des médecins, artisans, commerçants, cuisiniers, serveurs, policiers, gendarmes, militaires, employés de bureau, fonctionnaires, livreurs, artistes même, ouvriers agricoles, informaticiens et enseignants. Enfin, autre chiffre inquiétant, 2002 sur 100 plaintes enregistrées pour violences conjugales, 65 seront classées sans suite dans notre beau département des Alpes-de-Haute-Provence et seulement 20 condamnations seront prononcées. Une situation très étonnante pour un tribunal de Digne qui n'a a priori pas vraiment la réputation d'être laxiste dans ses jugements. Les violences machistes y bénéficieraient-elles d'une certaine tolérance? Nous n'osons l'imaginer, mais les chiffres tendraient à l'indiquer. 10 où se trouve le centre d'information sur les droits des femmes avec Martine Trouche que nous allons entendre nous présenter leurs activités dans le cadre donc du dispositif SOS Violence Conjugale 04. En compagnie de la thérapeute Marie Domarque Orgue Debat.
Oui, donc c'est une association départementale qui dépend d'une association nationale, le Centre National d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles, qui est en réseau avec 120 CIDF dans la France entière. Donc le Centre d'Information sur les Droits des Femmes a pour objectif premier d'informer les femmes sur leurs droits et de les aider à faire avancer leurs droits. Droits de la famille, droits du travail, tout droit qui puisse être nécessaire. Donc avant tout, on a une juriste, une personne qui fait de l'information juridique. Et ensuite, le CIDF, depuis quelques années, a élargi son champ de compétences en ayant une conseillère à l'emploi qui aide les femmes à accéder à un travail, des femmes qui sont en grande difficulté de recherche d'emploi. Nous avons aussi maintenant, depuis 3 ans, donc une accompagnatrice sociale, qui est en même temps référente sur les violences conjugales, les violences faites aux femmes, qui fait en même temps de l'écoute et de l'accompagnement pour les femmes victimes de violences. Et depuis cette année, depuis donc le mois de mai 2004, nous avons, suite aux demandes répétées des femmes depuis de nombreuses années, du besoin de parler de ce qu'elles ont vécu concernant les violences conjugales, donc nous avons monté un groupe de parole sur Digne, qui donc marche depuis maintenant 6 mois, 7 mois.
Et ce groupe de parole, ça a été l'initiative, disons, de l'encadrement de l'association ou ça a été une demande des femmes?
Alors depuis de nombreuses années, donc, les femmes étaient très demandeuses d'avoir un espace pour s'exprimer, d'échanger vraiment sur ce qu'elles vivaient, ce qu'elles ressentaient. Donc c'est une demande que l'on a travaillée depuis plusieurs années et qui a pu aboutir cette année sur Digne. Un premier groupe a été constitué l'année dernière sur Manosque, où il y a eu différentes difficultés qui font que le groupe n'a jamais vraiment fonctionné. Et cette année donc sur Digne, vu les demandes, vu aussi la position du CIDF qui est basée sur Digne, ça nous a paru beaucoup plus simple de le monter là. Et effectivement, depuis, il fonctionne. Et
ça fait depuis peu de temps quand même que vous avez cette branche donc particulière sur les violences conjugales.
Alors depuis le début du fonctionnement du CIDF, donc depuis 22 ans, environ 10% des demandes concernent les violences conjugales. Les femmes viennent pour des divorces, pour des problèmes de garde d'enfants, et souvent les entretiens avec l'informatrice juridique débouchent sur les violences conjugales. Elles commencent à parler, à expliquer leurs difficultés à être entendues aussi dans ce domaine-là. Et donc, petit à petit, on a élargi un petit peu le champ du CIDF, parce que juste de l'information juridique, ça a paru limité, en fait, hein, pour les aider. Il y a besoin d'aller un petit peu plus loin. Quand une femme subit de la violence, elle a besoin d'un petit peu plus d'accompagnement pour pouvoir en sortir et faire valoir ses droits.
Sinon, sur ces groupes de parole, vous estimez quoi comme limitation en nombre et en temps de ces groupes de parole?
C'est une bonne question. Effectivement, pour que le groupe puisse quand même avoir des échanges riches et assez importants, il faut quand même au minimum 5 personnes.
Marie Domar Orgedeba.
On s'est rendu compte qu'à 4, 5, ça pouvait effectivement être riche et intéressant malgré tout. Et on a limité à 8. On avait dit 10 au début, mais on se rend compte que 8, c'est largement suffisant. Voilà, sinon après, on n'a pas assez de temps de parole, ça dure 2 heures, le groupe dure 2 heures uniquement, de 2 à 4, et c'est le mardi tous les 15 jours, donc c'est vrai qu'il faut quand même une régularité et un espace de temps suffisant pour pouvoir échanger malgré tout. Donc on limite à 8 le nombre de personnes. S'il y avait plus de demandes, il faudra envisager un deuxième groupe. Mais alors là, je me retourne vers l'association pour voir si c'est faisable financièrement, bien sûr.
Et sinon, sur la durée, vous pensez qu'un groupe de parole peut... Ça dépend, quoi. Ça peut dépendre aussi des personnes qui sont là et de la manière dont elles évoluent.
Tout
ou vous
fait.
Avez des
Tout
estimations de temps?
On se disait une année pour faire au moins un bilan et voir ce qu'il en est. Et puis proposer aux femmes de faire autre chose autrement. Voilà. Donc on s'est fixé une année, mais c'est vrai que c'est l'expérience qui va nous dire aussi. On découvre nous aussi.
Et puis peut-être elle, leur désir, enfin leur volonté de continuer ou
tout
pas.
Quoi,
de...
Tout à fait. Ouais. Ouais. Donc ça a démarré au mois de mai, petit à petit les femmes ont intégré le groupe, au démarrage il y a eu 5-6 personnes et puis petit à petit on est arrivé au nombre de 8.
Marie Domarc Orgode.
Un des enjeux importants du groupe c'est déjà effectivement qu'elles arrivent à pouvoir s'écouter, à dire ce qu'il en est pour elles, mais un de nos objectifs à nous, en tout cas à moi en tant qu'animatrice du groupe, c'est leur permettre de se revaloriser, de reprendre confiance en elles, que l'estime d'elle-même puisse être de nouveau assez forte, assez importante, pour qu'elle puisse après trouver du travail, faire des démarches par elle-même. Et cette estime d'elle-même, le regard des autres le leur renvoie petit à petit. On a des tas de témoignages au fil du groupe, d'une femme en particulier qui disait à une autre « Mais si tu te voyais entre le début et aujourd'hui, alors que le groupe n'a démarré qu'au mois de mai, au mois d'octobre, mais tu n'es plus la même, tu parles beaucoup plus, tu souris alors qu'avant tu ne souriais pas. » Voilà, ce sont des toutes petites choses, ça peut paraître anodin, et en même temps c'est très important. Une autre qu'on voit arriver, mieux habillée, un peu mieux maquillée, enfin voilà, des choses de ce type-là qui font qu'on se rend compte que petit à petit, elles prennent confiance en elles et elles retrouvent au moins une estime d'elles-mêmes. Si ce n'est pas plus, c'est déjà énorme.
Donc, à des premiers dégâts énormes dans toutes ces affaires, c'est cette déstructuration de la personnalité des individus, quoi.
Complètement, tout à fait. C'est être finalement convaincu au fur et à mesure que la violence s'exerce, qu'elle soit psychologique ou physique d'ailleurs, qu'on ne vaut rien et qu'on mérite les coups quelque part.
Donc, ça, il y a un sentiment de culpabilité tout le temps qui joue beaucoup. Qui...
Alors, le groupe n'est pas un groupe thérapeutique et ça, il faut bien le distinguer. C'est-à-dire que les femmes ont fait soit une démarche déjà de psychothérapie elles-mêmes, soit quand on sent qu'elles sont dans une grande difficulté, ça m'est arrivé de proposer à une ou l'autre de refaire une démarche, de redémarrer quelque chose parce qu'elles étaient en trop grande difficulté et le groupe ne peut pas permettre ça. C'est vraiment un groupe plus d'accompagnement, de solidarité, de soutien, voilà. Plus qu'un travail de fond, bien que ça aille quelquefois assez loin dans les échanges et autres. Mais il faut qu'elles aient travaillé ça individuellement, certainement avec un thérapeute professionnel. Enfin, à mon avis, c'est vraiment très important. Et je reste vigilante là-dessus.
Et donc, dans l'ensemble, vous trouvez que le bilan, enfin dans les quelques mois que vous avez là de pratique dans ce groupe ici, sont concluants?
Oui, moi je suis même étonnée favorablement. C'est pour moi aussi une première expérience d'animation de groupe. Hein. J'anime d'autres groupes, mais pas dans le cadre de la violence, des violences faites aux femmes. Donc c'était pour moi la première expérience d'animation de groupe de femmes victimes de violences. Et je suis vraiment très étonnée de ce qui se crée et de ce qui se joue et de l'importance qu'elles y trouvent. C'est-à-dire au mois de septembre, quand on a repris, il y a eu une coupure d'un mois pendant l'été, toutes ont exprimé « Ah, enfin ça redémarre, on est contente de se retrouver ». Enfin voilà. Donc c'est quand même des choses, des signes comme quoi c'est un besoin vraiment pour elles de pouvoir échanger et petit à petit qu'il y ait des liens aussi qui se créent de soutien entre elles. Et le but évidemment, c'est pas de faire durer le groupe des années, c'est qu'elles puissent être autonomes et puis créer des liens et oser aller vers les autres aussi. Donc ça, c'est une des choses qui se fait petit à petit.
Et dans ce qui a pu être dit là et auquel vous participez, il y a des choses qui vous ont surprise ou étonné par rapport à ce à quoi vous pouviez vous attendre?
Je crois qu'on s'attend jamais à ce qui est raconté de la violence. Quand on ne l'a pas subi soi-même en plus, je veux dire, c'est des choses qui paraissent tellement incompréhensibles. Mais justement, c'est un lieu où elles peuvent oser et elles sont entendues, parce qu'elles se comprennent aussi entre elles. Elles ont vécu des choses similaires. Donc moi, je suis là pour favoriser la parole, pour favoriser le respect de l'écoute de l'une et de l'autre, parce que quelquefois, ben, il y en a une qui parle alors que... Enfin voilà, c'est des choses toutes simples, hein, de l'ordre de l'animation de groupe, toutes simples. Mais ce cadre-là favorise l'expression et permet une confiance qu'elles n'ont pas ailleurs. Il n'y a pas d'autre lieu pour ça. Si ce n'est quand elles ont fait un travail de thérapie individuelle, après se reconfronter à la vie, j'allais dire collective, sociale, c'est encore une autre étape. Le groupe favorise ça.
Toujours au centre d'information sur le droit des femmes avec Martine Trouche et Marie Domarque Orgedeba, nous allons évoquer à présent un film, celui de l'espagnol Iciar Bolén, Ne dis rien, film remarquable sur le sujet des violences conjugales. Là, vous êtes pour l'instant pas très très connu. Vous faites comment pour la publicité ou la diffusion de l'information autour de ces activités de votre association? Martine Trouche.
Eh bien, nous faisons de temps en temps des parutions dans le journal, dans les journaux locaux, mais c'est vrai que pour l'instant, nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour faire vraiment de la publicité. Donc, on a fait un peu auprès des CMS et mairies, services sociaux, etc. Bon, on fait une petite campagne de publicité, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas une réelle pub qui puisse être conséquente.
Et sinon, auprès des collèges ou des lycées, vous n'avez pas envisagé de faire aussi de l'information de...
Alors, nous avons depuis septembre, il a été commencé de la prévention sur les violences sexuelles, la prévention sur l'égalité et les relations entre filles et garçons, dans un collège à Manosque, au Mont d'Or. Enfin, il y a eu une intervention auprès de chaque classe pour les faire travailler un petit peu sur les relations, hein, filles, garçons, qu'est-ce qui est du contrôle, qu'est-ce qui est bon. Hein, qu'est-ce qui tourne à la violence, voilà, comment gérer au mieux les relations filles-garçons et sortir un petit peu des cadres rigides parfois dans lesquels sont les enfants. Et donc au mois de janvier, je crois que le bilan sera fait. En un trimestre, toutes ces classes auront été contactées. Je pense que ça a très très bien marché. Apparemment, ça s'est très bien passé.
Au niveau des classes terminales, quand même, on pourrait aussi envisager, enfin imaginer de visionner le film là, espagnol et de créer des débats autour ensuite.
Oui, il y a énormément de travail. Nous avons une intervention bientôt, là en décembre, avec ma collègue auprès d'une classe de BEP pour faire de l'information sur les violences sexistes, les violences conjugales et l'évolution du droit des femmes depuis 200-300 ans à peu près. Donc, voir d'où viennent aussi ces problèmes, pourquoi ça existe encore le sexisme à l'heure actuelle, pourquoi il y a de la violence entre les hommes et les femmes, des hommes sur les femmes en grande majorité. Voilà, donc on fait de la prévention. On fait de l'information, mais c'est vrai qu'on est encore limité par les moyens, par le temps aussi.
question aussi sur ces violences qui sont le fait quand même très majoritairement, plus de 90% des hommes. Les hommes justement en question sont quelque part aussi un peu des êtres fragilisés, un peu dérangés pour en arriver à ces extrémités, et on connaît leurs réactions qui sont quelquefois de plus en plus violentes justement. Est-ce qu'il est envisagé quelque chose justement pour essayer aussi de suivre ces hommes, et mieux que de suivre, enfin de faire en sorte qu'ils puissent dépasser leurs pulsions? Martine.
Alors au CIDF, c'est vrai que avant tout, nous sommes une association en direction des femmes, c'est vrai. En même temps, le but de notre association, c'est aussi de faire baisser et diminuer la violence entre les humains. Les hommes, c'est vrai que nous en recevons très peu, mais à travers le discours des femmes, on se rend compte de la détresse dans laquelle sont ces hommes. En général, ils sont dans une énorme difficulté, une énorme douleur aussi. On a conscience qu'ils ont besoin aussi d'aide, et ils ont besoin aussi d'un espace, eux, pour s'exprimer, etc. Alors c'est ouvert, on espère se mettre autour de la table avec les autres associations du département travaillant sur les violences, pour peut-être impulser quelque chose en direction des hommes, surtout avec cette nouvelle loi sur le divorce qui peut amener l'éviction du conjoint violent. Ces hommes-là auront besoin d'un espace pour pouvoir comprendre, prendre conscience de ce dans quoi ils sont et les aider à éventuellement en sortir si c'est possible.
C'est ça qui fait un peu la difficulté de toutes ces relations qui sont très ambiguës aussi, de violence et puis de l'autre côté, comme on disait tout à l'heure, de culpabilisation de la victime. Mais la victime aussi qui effectivement quelquefois a de l'affection pour cet homme violent et se rend compte qu'il est fragile et qu'il a besoin aussi d'écoute. Et ça joue dans le phénomène de cultiver cette culpabilité sur lequel l'homme joue certainement à fond aussi. Donc Marie Domarque Orgodoba.
Il y a une co-responsabilité, non pas dans les coups, hein, ça c'est l'homme qui en est responsable, mais dans la façon de réagir aussi. Et ça c'est quelque chose qui se travaille aussi par rapport aux femmes. Alors au risque de choquer peut-être le CIDF, je pense que c'est toujours une question, un couple se fait toujours à deux. Et c'est aussi parce qu'il y a une fragilité du côté de la femme que à un moment donné, un couple se met dans la violence, quoi. Et c'est pas que de la responsabilité. Je pense vraiment qu'il y a une de l'homme. C'est, il y a une co-responsabilité. Par contre, c'est lui qui est coupable des coups. Ouais. On est bien d'accord, hein. Et la femme n'a pas à se culpabiliser de ça. Elle peut être responsable de ne pas partir, de ne pas faire ce qu'il y a à faire à un moment donné, mais pas de des coups, bien sûr.
Mais c'est toujours très difficile, parce qu'il y a ces jeux d'affection aussi qui sont souvent très réels et qui bloquent pas mal de choses aussi. Martine Trouche.
Il y a aussi le fait que la violence d'une personne sur une autre, ça n'est pas simplement une histoire de conflit entre deux personnes, c'est objetiser une personne. C'est-à-dire, quand une personne devient un objet, il n'a plus pouvoir sur quoi que ce soit de l'autre. Il ne vit plus que autour et en fonction de ce fonctionnement-là. Et quand un fonctionnement est tordu, eh bien, on a énormément de mal à fonctionner autrement. La co-responsabilité, c'est pas l'approche que l'on en a au CIDF. Les violences sexistes existent parce qu'on vit dans une société qui découle d'un patriarcat, et etc. C'est une réalité. Notre société, elle a été faite par des hommes, pour des hommes. Des lois ont été votées pour les hommes et par des hommes. Les femmes n'ont pas eu beaucoup de mots à dire là-dessus. Et elle protège beaucoup plus le droit des hommes que des femmes. Il ne faut pas oublier qu'en 1792, par là, une femme a écrit, suite à la Déclaration universelle des droits de l'homme, Olympe de Gouges a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et cette femme-là, vu cette prise de position politique un peu violente, a été décapitée. Parce qu'elle était une femme, parce qu'elle affirmait les droits des femmes. Et en 1804... Il ne faut pas oublier que le premier code civil a institué la femme comme étant incapable. Elle était au même rang que les criminels, que les enfants et que les handicapés. Voilà. Notre société découle de ça. Et les violences découlent aussi de ce fonctionnement.
Et sinon, là, vous connaissez un petit peu les nouvelles dispositions législatives de la nouvelle loi, oui. Alors, vous voyez les choses comment là-dessus?
Marie Domarc Orgode.
Bon, la loi va rentrer en vigueur en janvier, c'est tout nouveau. Martine sera plus à même que moi d'y répondre. Je connais la loi. Une des grandes différences, c'est effectivement que le magistrat peut ordonner que ce soit le conjoint violent qui parte du domicile conjugal. Et ça, c'est une énorme différence par rapport à d'habitude, où non seulement les femmes sont victimes, mais en plus, il faut qu'elles partent. Et dans des conditions difficiles toujours, parce que c'est rare qu'elles aient un emploi. Et voilà, donc c'est des choix à faire tellement énormes qu'elles ont beaucoup de mal. Mais avant que ce soit mis en vigueur, il y a eu un colloque à Gap récemment, là, le 4 décembre, avec les avocats. Justement, ils disaient qu'avant que ce soit vraiment mis en place, il allait y avoir toute l'expérience et toute la jurisprudence qui allait faire finalement progresser les choses, mais qu'on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer. Sincèrement, ce n'est pas du jour au lendemain où ça va changer les choses. Il va falloir un peu de temps pour que les choses se mettent en place.
À présent, retour à Fort-Calquier où nous retrouvons Françoise, responsable locale du dispositif SOS Violence Conjugale 04 avec Catherine Dimec, thérapeute. Nous allons commencer par quelques considérations sur la nouvelle loi sur le divorce entrée en application en janvier 2005.
Une des grandes injustices pour les victimes de violences conjugales, c'est que dans la plupart du temps, les femmes sont obligées de quitter leur domicile, leur confort, leurs meubles,
Françoise,
de partir avec rien. Et la nouvelle loi sur le divorce tente à corriger un petit peu cette tendance, puisqu'il est prévu que, donc, en cas de violence conjugale, la victime, avant même de demander une requête pour son divorce, peut demander au JAF une ordonnance qui lui permet de rester au domicile et qui chasse l'agresseur du domicile conjugal, avant même la requête sur le divorce. Donc ça, c'est une grande avancée. Et ensuite, elle a 4 mois pour déposer cette requête de divorce. Si durant ces 4 mois, la demande de divorce n'est pas formulée, l'effet de cette ordonnance est caduque et le conjoint peut retourner au domicile. Alors, c'est une avancée importante, mais pas pour tout le monde, parce que pourquoi les femmes quittent aussi leur domicile, c'est parce qu'elles s'estiment en danger, et parfois elles sont en grave danger. Pour certaines personnes qui ont des conjoints particulièrement violents ou qui le deviennent sous l'effet de l'alcool, etc., eh bien, ils connaissent les lieux, ils ont encore peut-être les clés, ils savent qu'on peut rentrer par la petite fenêtre derrière où la serrure ferme mal. Donc ça ne met pas tout le monde à l'abri du danger, ce n'est pas la panacée.
Et dans cette loi, il y a aussi la disposition que les juges doivent intervenir rapidement. Ils ont la possibilité, en tout cas, d'intervenir un peu comme,
oui,
presque comme des flagrants délits.
Oui, tout à fait. Hein. Là, si je ne me trompe pas, c'est une procédure en référé.
Ces réflexions et ces actions autour donc des violences conjugales, on accompagne, on prend en considération les victimes, qui effectivement c'est une priorité, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'également il serait important de réfléchir et d'intervenir aussi du côté des agresseurs, qui, quoi qu'on puisse penser des actes qu'ils commettent, sont quelque part aussi un peu des victimes et sont en tout cas des gens sur lesquels il faudrait avoir une action ou une intervention, Françoise?
Alors, c'est absolument indispensable, et malheureusement aussi bien dans le département que dans France en général, il y a insuffisamment d'associations, de dispositifs prévus pour les auteurs de violences conjugales. Ce que je peux dire, c'est que pour le département ici, à Fort-Calquier, la maison de la famille, où il y a un groupe de parole pour hommes, pas pour hommes victimes de violences conjugales, mais qui est apte à accueillir la parole d'hommes victimes. Ensuite, il y a des organismes comme Trait d'Union Famille Système 04 qui font de la thérapie familiale et qui ont parfois des entretiens individuels avec les auteurs de violences conjugales. Pour nous, associations s'occupant de victimes, ça serait compliqué de recevoir à la fois la victime et l'agresseur. On se situerait sur notre domaine d'intervention, qui est peut-être possible, mais bon, pour le moment, qui est à réfléchir. Voilà, donc les outils sont réduits.
Catherine Dimec, vous êtes psychothérapeute et vous intervenez donc dans ce dispositif départemental SOS Violence Conjugale 04. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer comment vous intervenez dans ce dispositif et puis quels sont les axes un peu essentiels que vous considérez, vous, de votre travail par rapport aux victimes ?
Alors, moi je viens sur le département 2 jeudis par mois, essentiellement à Fort-Calquier et à Manosque, mais je peux aussi exceptionnellement être mobile pour des gens qui sont par exemple très isolés au fond d'une vallée ou sans voiture, sans voisin, sans réseau. Donc je reçois les femmes en individuel, donc tous les 15 jours. Ce sont des séances qui durent une heure, qui sont du face-à-face, avec deux axes essentiels. La séparation, c'est-à-dire que les femmes ont besoin de réfléchir et de trouver la force ou les forces pour arriver à se décider à se séparer, à partir. Et le deuxième, c'est la réparation, c'est-à-dire des femmes qui sont déjà séparées, mais qui sont encore brisées. Donc avec une image d'elle-même totalement dévalorisée, abîmée, un très grand manque de confiance dans leur capacité à agir et parfois même simplement à penser.
Ça, en gros, le travail essentiel, c'est presque de leur faire reprendre confiance en elles-mêmes.
Oui, c'est-à-dire il y a deux choses. La première chose, c'est déjà d'arriver à reprendre confiance en soi. Mais derrière ça, en amont, il y a d'arriver à se penser en sujet, en jeu, et non plus en objet. Hein, c'est-à-dire qui vit dans le regard de l'autre, qui est dépendant complètement, mais arriver à se poser à moi en tant que personne, en tant que femme, puisque bon, pour l'instant, il n'y a que des femmes, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que je mets en place. Voilà, donc essentiellement, ça c'est le plus gros du travail. Et bien sûr, alors je travaille de manière conversationnelle. On essaie au fur et à mesure de voir un peu comment tout cela a pu se mettre en place et comment s'est organisée la relation pour faire que non seulement ça ait pu arriver, mais ça ait pu se maintenir. Et puis du coup, comment s'en dégager.
Construire et reconstruire toute cette histoire. Là.
Oui, exactement.
Et les plus grandes difficultés que vous rencontrez ?
Alors, au jour d'aujourd'hui, dans cette spécificité de la violence conjugale, je dirais que c'est la motivation. C'est-à-dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, les femmes se retrouvent devant une montagne de choses à surmonter. Françoise les aide dans un premier temps, je dirais, à créer des étapes, à mettre des territoires. Voilà, ça c'est la mère, ça c'est la femme, ça c'est l'administratif, ça c'est le scolaire, ça c'est le logement, ça c'est le travail, ça c'est le financier, ça c'est l'autonomie. Bon, tout ça, elles sont face à quelque chose d'énorme à surmonter. Et il y a des moments de très grand découragement et où, en fait, la mésestime qu'elles ont d'elles-mêmes va les freiner. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles vont s'auto-dévaluer et s'auto-freiner parce qu'elles ne croient plus assez en elles. Moi, je pense souvent, et je crois que tu le penses aussi, quand on est en très grand stress, on a de très grandes difficultés à réfléchir. La difficulté, c'est au départ d'arriver à créer une relation de confiance qui va faire qu'elles vont continuer à venir même dans les moments de doute, même dans les moments de grand découragement, et que petit à petit, elles vont arriver à croire en elles, en leur autonomie, en leur capacité à construire par elles-mêmes quelque chose. Hein, parce que quand on a vécu dans la peur, l'isolement, les coups, la douleur, le silence, le non-dit pendant des années, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Il faut un petit peu de temps pour arriver déjà à sortir du stress, et puis après pour reconstruire l'estime de soi. Ça, c'est la première grosse partie. La deuxième, qui est très importante, c'est de les sortir de cette culpabilité qui est tenue par cette notion d'hyper-responsabilité. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un pense que la mauvaise humeur, la violence, les insultes, la rage, les assiettes cassées, les coups sont dus non pas à une très grande difficulté de l'autre, mais au fait qu'elle n'a pas fait ce qu'il faut, ça fait des années qu'elles essaient de rectifier en permanence pour essayer de se suradapter. Et elles sont dans une espèce d'image d'hyper, de surresponsabilité qui les met dans un très grand sentiment d'impuissance.
Et d'échec permanent répété.
Voilà, d'échec permanent. Et donc de culpabilité. Et ça, il faut absolument arriver à ce que déjà elles en prennent conscience. Parce que le fait que Françoise le sache ou que moi je le sache, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est nécessaire qu'elles aient du temps et un temps de parole où elles-mêmes, elles vont petit à petit le défaire. C'est-à-dire où elles vont elles-mêmes prendre conscience que depuis des années, elles ont un problème. Depuis des années, elles tentent de trouver des solutions à ce problème. Et que la tentative de solution qu'elles essaient depuis des années ne fonctionne pas. Et que pour autant, pour l'instant, elles n'en ont pas encore changé. Et que moins la tentative de solution a marché, plus elles se sont dévalorisées, plus elles se sont culpabilisées, et plus elles ont continué à tenter encore plus et plus et plus, en général, de la même chose, c'est-à-dire d'être très patiente, d'être très discrète, d'être très silencieuse, de très bien ranger la maison, d'inviter de moins en moins de gens, c'est-à-dire que la vie s'est amenuisée en général dans ces foyers. C'est-à-dire que, eh ben, on parle plus des sujets qui fâchent, et puis après on fait manger les enfants avant, et puis après, vous voyez, ça s'appauvrit petit à petit.
Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude, c'est la seule chose faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité.
Sinon, est-ce qu'il y a des profils type de victimes? Quelquefois, quand on regarde les médias, on a l'impression que toutes ces choses abominables se passent dans des classes défavorisées. Catherine?
Ah non. Alors, on sait très bien, et je ne peux pas laisser dire ça, parce qu'on sait que ça touche toutes les classes sociales sans distinction. Simplement, plus les classes sociales sont élevées, plus ça va être tabou. Et caché.
Ça va être discret, quoi.
Exactement. Ça, je crois que c'est vraiment important parce que on sait vraiment maintenant statistiquement. Je veux dire, ce n'est pas considéré de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des familles où culturellement le coup ou la violence va être presque normal, où l'homme a droit de vie ou de mort sur sa femme, mais d'autres où ça ne se fait pas du tout et où c'est totalement caché et tabou, c'est pour ça que j'utilise le mot tabou, mais où ça se passe partout. Il n'y a aucune distinction ni sociale ni économique.
François.
Je voudrais parler un petit peu chiffres parce que donc SOS Violence Conjugale est aussi un observatoire des violences conjugales. Et on a tiré nos premiers chiffres récemment sur 100 femmes et ces chiffres se recoupent quand même avec la grande enquête nationale qui a été faite en l'an 2000. Et on se rend compte quand même que la différence de niveau culturel favorise la violence conjugale et que...
Dans le couple.
Dans le couple, oui, dans le couple, oui, tout à fait, c'est à préciser. Et que, par exemple, dans le 04, 53 15% des femmes ont un diplôme supérieur ou égal au baccalauréat, contre seulement 24% des hommes. Donc on voit deux choses, qu'effectivement, lorsqu'il y a un écart dans les diplômes en défaveur de l'homme, c'est un facteur favorisant la violence. De même, une différence d'âge supérieure de 10 ans dans le couple favorise aussi la violence.
Et en dehors de cette considération, disons, sociologique, est-ce qu'il y a d'autres considérations, questions de profil des victimes?
Je sais pas, enfin, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop de dégager un profil, en fait. Parce que je pense que vraiment chaque histoire est absolument unique. Ça, c'est très important. Je sais que au sein de SOS Violence Conjugale, quand je reçois les femmes, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment cette personne va arriver à s'individualiser, c'est-à-dire à redevenir un individu, c'est-à-dire à se reconnecter avec ce qu'elle est profondément et comment elle va réapprendre ou apprendre à se faire confiance et à faire confiance à ce qu'elle sent et à ce qu'elle pense. Pour moi, c'est ça le chemin sur lequel je peux accompagner ces femmes.
Mais ça, c'est aussi une spécificité des SOS Violence Conjugale, c'est-à-dire que tous les intervenants ont une culture commune, notamment empruntée aux thérapies brèves. Et dans les thérapies brèves, contrairement à la psychologie classique, par exemple, on ne classifie pas les personnes. On considère que chaque individu est absolument unique et on va à la recherche de sa différence. Hein, et on fait avec de sa spécificité et de son unicité, etc. Donc c'est vrai qu'on n'aime pas mettre des classifications. De même, j'ai oublié tout à l'heure de le dire, mais nous ne sommes pas une association militante qui défend la cause des femmes. Nous aidons des victimes, quelles qu'elles soient. Et je m'adresse aussi aux hommes, parce qu'il peut y en avoir qui nous écoutent et qui sont victimes de violences conjugales, que SOS Violences Conjugales leur est ouvert tout à fait.
Bon, pour autant, ça n'empêche pas que, effectivement, ce qu'on a de commun dans toutes les thérapies,
Catherine Dimet,
c'est qu'on a quand même ce qu'on peut appeler un outil diagnostique, qui est une sorte de dictionnaire de langage commun. Que, par exemple, dire que telle personne fait une dépression, bon, mais on sait que ça correspond à un tableau clinique et que quand on dit dépression, voilà, ça résume et ça correspond à un tableau précis. C'est un langage commun. Bon, après, je crois que vraiment, ce qui est important, c'est que ce dispositif, là où il est important, bon, il y a effectivement l'accueil de jour, l'accueil de nuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et puis il y a tout ce réseau avec tous les autres travailleurs sociaux, avec les policiers, avec les gendarmes, avec les urgences, avec les psychiatres, les psychologues, les infirmières et les infirmiers psy, tout ce réseau-là. Et pourquoi ça tient la route et que ça devient cohérent, c'est parce que on est soutenu par la loi. Et qu'à partir du moment où la loi vient soutenir le dispositif et les victimes en disant « voilà, ça c'est interdit, ça c'est un délit », et à partir de là, il y a une décision de justice, il y a quelque chose qui est effectivement de l'ordre de la réparation, qui est immédiatement possible pour la victime, que ce soit une femme ou un homme. Et bien sûr, c'est important d'ouvrir ce champ de réflexion sur qu'est-ce que ça apporte aussi à l'agresseur, que la loi vienne lui dire « voilà, ça c'est interdit ». Et il est important que vous appreniez à faire autrement.
Il y a des dispositifs justement pour les agresseurs, question d'accompagnement psychothérapeutique?
Alors, pas ma connaissance. Ce qu'on peut dire, là, si des agresseurs nous écoutent, qu'ils sont très malheureux, hein, parce que de toute façon, il ne faut pas se leurrer, je veux dire, la plupart sont quand même très malheureux d'être pris eux-mêmes dans cette violence, c'est qu'il existe de toute façon des centres d'aide psychologique, des centres médico-psychopédagogiques dans toutes les villes auxquelles ils peuvent s'adresser et que c'est gratuit, c'est-à-dire que je crois qu'ils donnent leur carte vitale et que le CMP est payé directement par la Sécurité sociale. Et il y a là-bas des psychothérapeutes, des psychiatres, des psychologues. Il y a vraiment possibilité de rencontrer des gens avec lesquels ils peuvent travailler, ils peuvent vraiment se faire faire aider.
Il y a un groupe à Marseille.
Voilà, c'était Vivre sans violence et maintenant ça s'appelle La Durance. C'est une SCOP et eux effectivement reçoivent des agresseurs, des couples et des femmes victimes. Ils sont en même temps formateurs, c'est aussi une école. Et ils sont spécialisés et ils se sont notamment formés au Canada. Bon, le Canada étant toujours très en avance au niveau de la recherche, justement sur l'accompagnement des agresseurs. Et comment leur apprendre à faire autrement? Comment est-ce qu'ils peuvent apprendre à vivre avec leurs émotions?
Comme tu disais tout à l'heure, sans accompagnement spécifique, une simple rencontre avec un psychothérapeute, lorsqu'on a réussi à rassembler les ressources nécessaires pour aller rencontrer un psychothérapeute, peut très bien aider l'agresseur à passer des caps et à travailler sa violence et à arriver à la maîtriser, à la comprendre, à l'apprivoiser.
Tu verras, tu verras. Tout recommencera, tu verras, tu verras. L'amour c'est fait pour ça, tu verras, tu verras. Je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras, tu verras. Tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras, tu verras. Le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits.
Sinon, une autre chose là à laquelle je pense, c'est que c'est important aussi, c'est quand même un volet important du travail qui se fait, c'est que, il me semble, au bout de 8 mois d'action spécifique sur le terrain,
Catherine dit,
que les femmes ont besoin de faire le deuil d'un rêve. C'est-à-dire que elles se décident à partir quand elles n'attendent plus que l'autre change. Quand elles n'attendent plus en se disant « ça va aller mieux, il va aller mieux, là c'est parce qu'il était très malheureux » ou « là c'est parce que », enfin en trouvant des tas de bonnes raisons. Et qu'à un moment donné, il y a un cap qui est franchi, c'est-à-dire qu'elles cessent d'attendre et elles sont face à une réalité. C'est dangereux, c'est terrible, c'est le jour, la nuit, c'est on ne sait jamais quand ça va se déclencher, ça peut se déclencher pour n'importe quoi, même si on sait qu'il y a ce qu'on appelle des rituels, et qu'en général, ça se déclenche toujours de la même façon, ou toujours dans le même lieu, enfin, en tout cas, ça a été observé.
Et puis on sait aussi que, malheureusement, d'un point de vue général, c'est de plus en plus grave, les agressions. François.
Oui.
C'est ce qu'on appelle le cycle des violences, hein, c'est que malheureusement, ça ne s'arrange jamais et cela va en s'aggravant. C'est-à-dire que, comme disait Catherine, la femme ne vit pas avec son conjoint, elle vit avec son conjoint violent et un conjoint virtuel qui est celui qu'il a été, celui surtout qu'il pourrait être. Donc son conjoint, son vrai conjoint, une fois qu'il y a un premier acte de violence qui est commis, si la victime ne donne pas un signal fort, et ce signal fort c'est quitter la maison, c'est porter plainte, déposer une main courante, etc., inconsciemment, l'agresseur le vit comme finalement une autorisation. Et chaque fois que la femme ne réagit pas, c'est une autorisation de plus qui est donnée à continuer à avoir ce comportement. Et cela s'aggrave, la violence est de plus en plus fréquente et elle est de plus en plus rapide jusqu'à mettre vraiment en danger la personne. Et elles vivent dans cette illusion que ça va s'arranger parce que ce cycle des violences a des étapes, dont une qui s'appelle la lune de miel et qui fait que lorsque la violence a explosé, lorsque, soulagé de la violence, l'agresseur a réussi aussi à convaincre la victime que c'était de sa faute, et lorsque finalement elle veut bien endosser cette responsabilité-là, il y a la période de lune de miel où l'agresseur devient plus agréable, va offrir des fleurs, va inviter au restaurant, il va ressembler un petit peu à celui qu'il pourrait être et la victime y croit et voilà, et c'est reparti pour un tour.
Je crois que ce qui est important de rajouter, si des femmes victimes écoutent et même si des agresseurs, donc des hommes agresseurs écoutent, c'est que de donner un signal fort, c'est-à-dire de partir de la maison ou de porter plainte, ça n'empêche pas pour le couple de pouvoir peut-être un jour vivre autre chose et autrement, même peut-être encore tous les deux ensemble. on n'en sait rien et c'est pas à nous de décider de ça. Les gens sont libres de mener leur vie comme ils l'entendent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la tentative de solution, de ne rien dire, de dire le pécheur, le pauvre, c'est-à-dire de le couvrir, au lieu de lui dire, écoute, ça, ça suffit, ça, c'est inacceptable, elle ne permet pas au couple d'apprendre à faire autre chose autrement. Et qu'en fait, dès que ça se produit, il faudrait tout de suite demander de l'aide, il faudrait tout de suite consulter, il faut tout de suite faire appel à l'extérieur, il faut pas avoir honte, il faut dire, j'ai une difficulté, nous avons une difficulté, on est en danger. De même que si on se casse la jambe, eh ben on va aller aux urgences. Quand il y a un dérapage aussi grave, et que ce soit, là bien sûr on parle de violence physique, mais il y a des femmes qui supportent de la violence verbale, continue de la violence économique, de la violence sexuelle. Il ne faut pas accepter ça, mais il faut savoir que ne pas accepter et dire que c'est inacceptable, ça n'empêche pas de pouvoir construire autre chose. Mais pour ça, il faut être deux. Et il faut être deux qui veulent faire des choses saines et équilibrées et se poser en tant que sujet.
Dans le sens de Catherine, lorsque je rencontre des femmes victimes, j'essaye de leur expliquer que, puisqu'elles partent de cette volonté d'aider et de sauver leur couple, de sauver leur relation, que paradoxalement, la seule façon de sauver la relation et de donner une chance à leur relation, c'est de porter plainte. Parce que l'agresseur de lui-même n'a aucune raison de changer son comportement. Surtout que des fois, d'autres tentatives de solution ont été thérapie, un conseiller conjugal, etc., ont été essayées. Donc, il ne va pas changer de lui-même. Donc, si on veut donner une chance que quelque chose change dans le couple, il n'y a que la plainte, il n'y a qu'un signal fort.
Mais je crois qu'on est quand même au cœur du problème. C'est un problème extrêmement complexe. Personne n'a de réponse toute faite. Comme je dis souvent, on a beaucoup plus de questions que de réponses. Et la solution, de toute façon, elle appartient à chaque individu. Donc, je veux dire, c'est chaque individu, chaque victime et chaque agresseur qui va arriver à trouver sa propre solution. Mais je crois qu'effectivement, dans cette complexité, là on touche quelque chose de très important qui est, à partir du moment où ça arrive, la solution de ne rien dire et d'accepter est vraiment la pire des solutions. Et malgré les apparences, elle ne préserve rien.
Voilà, merci à Françoise, Catherine, Dimec, Martine Trouche, Marie Domarc, Orgue de Bas. Si vous subissez de la violence chez vous, cessez de vous culpabiliser, n'acceptez plus l'inacceptable et ne restez pas seul. SOS Violence Conjugale 04 vous réservera un accueil chaleureux, discret et pourra vous mettre en contact avec d'autres personnes pouvant vous aider. Pour tout contact, vous pouvez téléphoner au 04 92 75 35 54. 04 92 75 35 54. Le site internet www.sosviolenceconjugale au singulier 04.org. L'adresse email contact@sosviolenceconjugale04.org. Dans la série Zinzinement Vôtre, c'était SOS Violence Conjugale 04, février 2005. Le CD de cette émission est disponible auprès de Radio Zinzine pour 10 euros, frais de port inclus. Vous pouvez nous le commander auprès de Radio Zinzine, 04 300 à Limans, L-I-M-A-N-S. Pour toute information avec Radio Zinzine, vous pouvez aussi consulter notre site internet www.radiozinzine.org.
Je n'ai pas peur de dire que je t'ai trahi. Par pure paresse, par pure mélancolie, qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable. Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur, tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable, c'est ça le pire. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de ne pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Je n'ai pas peur de dire que j'ai triché. J'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité.